Si vous voulez bien, on va lire un texte ce matin que vous connaissez probablement. Je ne vais rien vous apprendre. On va simplement méditer ensemble sur un texte. On va aller dans 1 Roi, au chapitre 17, au verset 8. Il est parlé d'une étrangère d'ailleurs, une femme, une veuve qui habitait Sarepta, qui ne faisait pas partie donc du peuple hébreu. Et on va lire ce texte tous ensemble. Je le lis dans une version second 21, s'il y a quelques nuances par rapport à vos Bibles. 1 Roi 17, verset 8. 1 Roi chapitre 17, verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Il parle à Élie, je remets le contexte. Élie a été envoyé par Dieu auprès du peuple d'Israël, le prophète Élie, et Dieu, pour un petit peu remettre en place tous les désordres qu'il y a dans le peuple, il dit, tu vas annoncer un arrêt de la pluie pendant 3 ans, qui dit pas de pluie, dit famine, sécheresse, et on est dans ce contexte-là. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il y vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit, je t'en prie, va me chercher un petit peu d'eau dans une cruche, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, n'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que l'Éternel dit, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. Elle partit et se conforma à la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Après ces événements, le fils de cette maîtresse de maison tomba malade. Sa maladie fut si violente qu'il cessa de respirer. La femme dit alors à Élie, « Que me veux-tu, homme de Dieu ? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils ?» Il lui dit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit dans les bras de la femme, le monta dans la chambre à l'étage où il logeait et le coucha sur son lit. Puis il fit appel à l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu vas faire du mal au point de faire mourir son fils, même à cette veuve qui m'a accueilli chez elle ?» Puis il s'étendit 3 fois sur l'enfant et fit appel à l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne en lui. » L'Éternel écouta Élie. L'âme de l'enfant revint en lui et il retrouva la vie. Élie prit l'enfant, le descendit dans la chambre jusque dans la maison et le donna à sa mère en lui disant, « Vois, ton fils est vivant. » La femme dit alors à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vraie. » On va s'arrêter là. Vous connaissez probablement ce texte, appelé le texte de la veuve de Sarepta. C'est souvent utilisé pour parler de la provision de Dieu, hein, de la fidélité de Dieu quand on a besoin, quand on est dans le besoin, que ce soit financier, que ce soit physique, que ce soit également spirituel. Dieu pourvoit toujours. Et c'est bon. Et ce texte est bon pour nous encourager dans ce sens-là. Mais je voudrais ce matin parler d'autre chose. Quelque chose qui m'a toujours interrogé dans ce texte ou d'autres textes de la Bible, mais pourquoi tu t'acharnes sur cette veuve? Pourquoi cette veuve subit-elle autant d'épreuves? On dit souvent, je crois ici même à Saint-Thierry comme ailleurs en France, la foudre ne tombe jamais 2 fois au même endroit. Vous connaissez cette expression? Et là on a l'impression qu'elle tombe 2 fois, 3 fois, voire 4 fois sur la même personne. Seigneur, pourquoi? Peut-être que vous êtes posé la question, je me suis déjà posé la question, mais pourquoi moi, Seigneur? Ça ne suffit pas déjà l'épreuve par laquelle je traverse, pour qu'il y en ait une autre. Pourquoi cette personne aussi à côté de moi, peut-être subit-elle tellement d'épreuves alors qu'elle est, c'est une personne que j'estime étant bonne, et peut-être même un chrétien, une chrétienne qui est consacrée. Pourquoi l'épreuve lui tombe-t-elle dessus? Et ce texte peut nous donner quelques réponses. On a l'impression qu'il y a une double peine pour cette femme. On voit bien qu'elle est croyante, si on lit entre les lignes, hein, puisqu'elle, on voit par son discours, par la façon dont elle répond à Élie, c'est une croyante. Elle va même jusqu'à respecter, vous voyez, les habitudes d'hospitalité qui sont là en Israël, qui sont très très fortes. On ne peut pas refuser l'hospitalité à un prophète, c'est pas possible. Et on voit qu'elle est croyante et qu'elle va jusqu'à donner de son plus que nécessaire. Probablement qu'elle priait. Je vais au-delà du texte, mais vous êtes d'accord avec moi que probablement cette femme, elle est dans un contexte de famine extrême, elle n'a plus rien à manger, elle est croyante, elle devait prier Dieu. Elle devait prier l'Éternel. « Seigneur, donne-moi de la nourriture pour moi et mon fils. » Une veuve, à l'époque, vous savez, c'était terrible. Personne ne les aidait. Il n'y avait pas la sécurité sociale. Il n'y avait pas les actions sociales à l'époque. Et dans beaucoup de pays, c'est encore le cas. Il existe dans le monde entier des veuves comme à Sarepta. Elle n'a rien. Elle se débrouille toute seule. Elle devait probablement prier « Je te prie, mon Dieu, de m'aider. » Et Dieu, qu'est-ce qu'il envoie ? Il envoie Élie le prophète qui ne s'invite pas et qui va lui prendre de ce qui lui reste. La réponse à la prière probablement n'était pas celle attendue par cette veuve. Comme parfois, la réponse de Dieu à nos prières n'est pas celle qu'on attend. En tout cas, moi souvent, il ne me répond pas comme je lui demande. Et heureusement, je dirais. Et en plus, on voit que cette femme, elle est probablement pieuse, droite. Elle obéit au commandement de Dieu. En tout cas, elle s'y conforme. Combien de chrétiens sont éprouvés si durement ? Je me pose la question. Vous vous posez peut-être la question. On se pose la question. Il y a des questions, on n'a pas de réponse. On aura une réponse là-haut. Pourquoi ce chrétien, cette chrétienne est si durement éprouvée? Pourquoi, ça a été dit dans une prière ce matin, et on le sait, on peut lire les proverbes, on peut lire l'Ecclésiaste, pourquoi ceux qui font le mal, parfois sont autant en réussite? Mais c'est frustrant pour nous chrétiens. C'est vrai que c'est frustrant. Il n'y a que moi qui suis frustré ? Non. C'est frustrant. Seigneur, je veux respecter tes commandements, je veux être quelqu'un d'honnête, je ne veux pas tricher dans mon travail. Et ça me joue des tours. Je veux être quelqu'un de droit, de ferme par rapport, je ne veux rien faire d'illégal et finalement, j'en pâtis. Ceux qui trichent ont plus de bénéfices que moi, ont plus d'avantages que moi. C'est un peu ce qui arrive à cette femme. Mais j'aimerais qu'on regarde plus loin ce matin. Vous savez, derrière tous les textes de la Bible, et je pensais à ça ce matin, derrière toute prédication, derrière tout enseignement, il y a l'amour de Dieu pour nous. Derrière tous ces textes, il y a l'amour infini de Dieu pour nous qui dépasse notre intelligence. Dieu nous aime. Dieu vous aime. Et Dieu aimait cette femme. Et on sait qu'il y a de nombreux exemples, des gens droits sont éprouvés. Un des plus bels exemples, c'est Job. Vous connaissez tous l'exemple de Job, cet homme qui était pieux, qui aimait Dieu et qui a été durement éprouvé. Mais on sait que Dieu ne l'a pas laissé tomber. Les promesses de Dieu étaient pour Job. Et je fais une petite aparté, cela va complètement à l'opposé de cet enseignement de l'évangile de prospérité qui aujourd'hui fait rage dans le monde entier, y compris en France. Y compris en France. Si tu es droit, si tu aimes Dieu, si tu donnes ton argent, tu vas forcément être béni. Tu vas prospérer. Non. Parfois, Dieu nous fait passer par des chemins qui sont incompréhensibles et c'est un enseignement faux. Par contre, je crois qu'il vaut mieux choisir l'enseignement qui est là, qui est parfois compliqué à saisir pour nous. Il y a des pourquoi qui resteront sans réponse. J'ai des pourquoi sans réponse. Je suis sûr que Lionel a des pourquoi sans réponse. Et il faut être honnête. Dieu nous laisse avec des pourquoi en suspens. J'ai des pourquoi en suspens, mais dans la balance entre les pourquoi et entre la bénédiction de Dieu et son amour pour moi, ça fait le poids, il est... Je sais que j'aurai peut-être des réponses sur la souffrance, sur des pourquoi au fil et à mesure que ma vie va avancer. J'aurai pas mal sur la liste de pourquoi sans réponse. J'aurai la réponse là-haut. Mais ce que je sais, c'est que Dieu est avec moi et que ses promesses et ses bénédictions sont pour moi et qu'on peut vivre aujourd'hui le miracle de Dieu, comme cette femme l'a vécu. Il nous dit encore... C'est un peu ce que fait Élie quand il va voir cette femme, il lui dit « Si tu me fais confiance, tu verras le miracle de Dieu. » Si tu me fais confiance, il lui dit pas « tout va s'arranger d'un coup, tout va être parfait, mais tu vas voir le miracle de Dieu dans ta vie, que les autres ne vont pas voir. » Et on sait que dans ce texte, il va quelque part lui apprendre à être encore plus dépendante de Dieu. Et quand on est dépendant de Dieu, on voit le miracle dans nos vies. plus on est dépendant de lui, plus il intervient de façon puissante. Alors vous allez me dire, être dépendant, c'est pas une qualité très pas la mode. C'est pas la mode d'être dépendant. Nous parents, je suis parent, vous êtes parents, on apprend en fait. Le but de l'éducation, c'est de rendre nos enfants indépendants. Vous êtes d'accord avec moi? Sinon, je sais pas, on a loupé un peu l'éducation. Et quand on s'en va, on est tout étonné qu'il s'en aille. Oh, c'est dur. Mais oui, mais en fait, t'as tout fait pour ça. Tu l'as éduqué pour qu'il puisse partir. Et des fois, on est surpris que les enfants soient autonomes. Et on dit, ah, il faudrait qu'il reste un peu plus à la maison. Mais non, mais t'as tout fait depuis qu'il est petit pour le rendre autonome. Maintenant qu'il est autonome, tu es surpris. Être indépendant aujourd'hui, c'est gage, dans la société dans laquelle on est, si tu es indépendant, c'est gage de bonheur, gage de réussite. C'est ce qu'on va, on est une société individualiste. Donc si tu es indépendant, tu vas réussir. Si tu arrives à ne plus avoir besoin des autres, tu vas réussir. Mais d'un point de vue spirituel, c'est un grand danger. En fait, ce qu'on apprend aux autres, même nous, même moi, j'apprends mes enfants, mais quelque part, ça fausse la relation que l'on doit avoir avec Dieu. On veut être indépendant. On veut être, qu'on le veuille ou non, c'est notre nature. On veut être indépendant. Et depuis Adam et Ève, l'homme veut être indépendant de Dieu. Faire les choses sans lui. Et on a ça en nous, même nous, chrétiens, engagés de tout notre cœur avec lui. On a cette tendance à vouloir faire les choses par nous-mêmes, sans le laisser faire à lui. Et cette notion de dépendance, elle est hyper importante. C'est sûr, ça donne pas envie quand on dit tu vas devoir être de plus en plus dépendant. Il y a peut-être des cheveux blancs parmi nous, ça fait peur de devenir dépendant. Ça fait peur de devenir dépendant. J'ai un chrétien de Muret, le pauvre, il souffre beaucoup en ce moment, il devient dépendant. Mais il a toute sa tête, il me dit, oh là, c'est un homme qui a fait beaucoup pour les autres, qui s'est beaucoup investi pour l'église, dans tout ce qui est dans le domaine matériel, spirituel, c'était vraiment un pilier. Et là, son corps le lâche, et il devient dépendant. C'est dur. C'est dur, mais il me dit, mais je vois parallèlement qu'il est de plus en plus dépendant de Dieu. Il passe des moments avec Dieu, il me dit, je passe des moments extraordinaires, je peux plus faire d'autre chose, mais dans mes cultes personnels, je suis de plus en plus dépendant du Seigneur. Et peut-être sa propre dépendance le rapproche de Dieu. Et c'est important pour nous d'avoir cette notion. Et Paul lui-même, je vous lis dans 2 Corinthiens 12, verset 7, Paul nous parle même lui-même de cette dépendance qui est importante. Il dit, il m'a été mis une écharde dans la chair pour m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Vous allez me dire ce matin, là, le pasteur qui est là, il va nous dire, la vie de chrétien, ça doit être une vie de souffrance. Ça doit être une vie de souffrance et jusqu'à la fin, tu vas souffrir. C'est ta vocation. Tu dois souffrir. J'ai grandi dans les églises, mes parents étaient chrétiens. Et j'ai souvent mal compris, j'ai compris des fois des messages, je disais, mais les pasteurs, ils ont rien. Moi, je veux pas de cette vie-là. Je veux pas de cette vie-là de souffrance, je n'en veux pas. Je ne souffrirai pas. Je veux pas de ça. Et si on va vite, on peut croire que Dieu nous appelle à souffrir. Non, Dieu nous appelle pas du tout à souffrir. Pas du tout. Qu'est-ce qui se passe pour cette femme? Il y a un moment délicat, il y a un moment de détresse et de souffrance qui est partagé par tout le peuple. Par tout le peuple. Et cette femme, au contraire, elle va vivre une bénédiction, un miracle que les autres ne vont pas vivre parce qu'elle va croire. Et même si, de prime abord, on peut croire que l'arrivée d'Élie, c'est une épreuve supplémentaire, c'est la double peine, la triple peine, en fait, juste derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le miracle. Cette femme, pendant 3 ans, elle va manger à sa faim, alors que tout le monde doit chercher, ça a dû être une catastrophe. On se remet dans le milieu, il n'y avait pas de supermarché, il n'y avait pas la supérette au coin à Saint-Agne. Les gens devaient s'entretuer, excusez-moi le terme, pour trouver le moindre chose, la chose à manger. Quand il n'y a pas de pluie et rien à manger, dans ces pays-là, c'était la catastrophe. Les gens devaient mourir tous les jours. Et elle va vivre par sa foi, la mise en action de sa foi, elle va vivre le miracle, dans le pot de la farine et de l'huile tous les jours. C'est incroyable. Elle va même vivre une deuxième épreuve, son fils ressuscité. Le premier cas d'une personne ressuscitée dans la Bible, c'est ce cas-là, bien avant Jésus. Cette femme, on en parle encore aujourd'hui à cause de sa foi. Et on peut croire qu'elle a beaucoup souffert, mais en fait, elle a vécu des miracles incroyables, des bénédictions que les autres de son époque n'ont pas pu expérimenter. Mais parfois, comme dans son cas, il faut être au bout pour pouvoir vraiment expérimenter le miracle de Dieu. Je ne sais pas comment fonctionner, mais ma femme pourrait dire, moi je suis très cartésien, vous savez, d'études scientifiques. Il faut que ça soit carré. Il faut que j'anticipe, que je prévoie les choses. Et Dieu me pousse souvent dans mes retranchements parce que sinon, je prendrai le plan B. Le plan B, c'est mon plan à moi. Avant de choisir le plan de Dieu. Et cette femme, elle a été poussée, elle n'avait plus de plan B. Il n'y avait plus de plan B, il n'y avait plus rien. Et des fois, quand il n'y a pas d'autre solution, c'est à ce moment-là qu'on peut voir Dieu agir. Et ce n'est pas que Dieu veut nous faire souffrir, c'est parce que parfois, il n'y a pas d'autre solution pour qu'on comprenne qu'il veut intervenir. Ce n'est pas un cas systématique, mais parfois, et en tout cas, moi, je l'ai vécu plein de fois, il a fallu que Dieu me pousse dans mes retranchements pour qu'il n'y ait, j'ai plus d'autre option. Des fois, il faut qu'on n'ait plus d'autre option pour vraiment crier à lui. Et ça a dû vous arriver. Alors, avec l'expérience, heureusement, quand on a vu Dieu agir, Dieu intervenir, les fois d'après, des fois on y pense, Seigneur, je vais d'abord te demander, qu'est-ce que tu veux faire, comment tu veux le faire. Mais on a cette tendance en nous, elle y sera toujours de vouloir faire par nous-mêmes ou à notre façon, même en tant que pasteur. Je suis pas un vieux pasteur, je commence à être un vieux monsieur, quoi. Moi, j'ai 47 ans, vous savez, je suis plus un jeune pour les jeunes et je suis pas un vieux pour les vieux. Voilà, ça permet de naviguer entre les deux, vous voyez. Ça permet de naviguer. Mais je suis un très jeune pasteur. 5 ans. Avec la formation, motion contre la formation, peu importe. Je suis très jeune. Et j'ai pu expérimenter que bien des fois, dans des situations d'église, alors j'ai pas l'expérience de Lionel, mais d'expérience d'église, je me dis, mais comment je vais faire? Si je fais ça, ça va pas. Si je fais ça, ça va pas. Et dans ma tête, toutes les options sont là et toutes les options sont mauvaises. Je n'ai plus d'autre option que de faire confiance à Dieu. Et c'est parfois dans nos vies ce qui se passe. Et j'aimerais vous dire, c'est la meilleure position pour que Dieu intervienne. Quand je n'ai plus d'autre option que lui. Et c'est ce qu'a éprouvé cette femme. Et je l'ai vu moi combien de fois, y compris dans l'église. Seigneur, j'ai plus d'option, je sais plus quoi faire. Et la solution se décante parce que c'est lui qui fait sans moi. Et Dieu fait toujours beaucoup mieux que nous. Beaucoup mieux que nous. Alors parfois, il nous demande d'intervenir. Je ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Quand notre responsabilité est en jeu et quand il faut intervenir, il faut le faire. Et ça nous a été rappelé ce matin. Et parfois, on prie pour des choses pour que Dieu intervienne alors qu'il va jamais intervenir parce que c'est à nous d'intervenir. C'est notre responsabilité. Et parfois, on intervient alors qu'il faut prier. Que le Saint-Esprit nous aide à avoir cette sagesse et savoir ce qui est à confier à Dieu et ce qui est de notre responsabilité. Et plus on expérimente ça, plus notre foi est affermie. Et peut-être que ce matin, certains d'entre vous traversaient des situations compliquées. Et on traverse tous des situations compliquées. Mais parfois, on traverse des situations compliquées et il y a la double peine, comme la veuve de Sarepta. Il se rajoute un truc. Il se rajoute une situation. Il se rajoute un problème de santé, il se rajoute un problème financier, il se rajoute un problème familial. Alors que déjà, on n'arrivait pas à gérer le problème de fond qui est là depuis quelque temps et pour lequel on prie. Rassurez-vous, il n'y a pas que la veuve de Sarepta. Vous aussi, moi aussi, on y est confrontés. Et j'aimerais nous encourager ce matin. Je suis pas en train de vous faire un message pour vous mettre au fond du trou, c'est au contraire, c'est un message plein d'espoir pour chacun d'entre nous. Accepte les circonstances. Accepte les circonstances. Comme cette femme. Arrêtons de dire pourquoi. Souvent, on oublie que Dieu est souverain. Dieu n'est pas surpris de rien. Rien ne le surprend. Ce qui nous surprend dans notre quotidien, un événement intercurrent qui n'est pas prévu dans notre vie, ça ne surprend pas Dieu. Lui n'est pas surpris. Et donc, nous, on se retrouve des fois dépourvus, des fois découragés, mais lui, il sait ce qui va se passer. Il a tout prévu. Et il l'a prévu, il a pour nous des projets de paix et non de malheur, nous dit la parole. Et ça, c'est une vérité, c'est une promesse sur laquelle on peut s'appuyer. Mais parfois, il nous amène à être dans nos derniers retranchements pour le laisser faire. Et ça, c'est merveilleux. Et il faut accepter aussi d'obéir. Cette femme, elle a accepté d'obéir. Est-ce que c'est grand? C'est pas grand-chose faire un petit gâteau. On se remet dans le contexte, d'accord? Moi, j'aime bien me remettre dans le contexte. Est-ce que ça lui demandait beaucoup d'efforts de faire un petit gâteau? D'un point de vue physique, je dirais. préparation, faire un petit gâteau. Par contre, dans son cœur, ça lui a déchiré le cœur. C'était ça de moins, ça donnait à son fils. Et parfois, Dieu nous demande simplement d'obéir et de faire des toutes petites choses qui, en fait, ne coûtent pas réellement. Il ne nous demande pas d'aller à l'autre bout du monde, de vendre notre maison, de, vous voyez ce que je veux dire, de faire des choses incroyables. Il nous demande des choses des fois très simples. Mais ça nous coûte beaucoup dans le contexte dans lequel on est, en fait, d'épreuve. Et quelque chose, si vous le racontez à quelqu'un d'autre, il va te dire, mais pourquoi tu le fais pas? Par exemple, Dieu peut nous demander de demander pardon. Est-ce que c'est difficile de demander pardon? Non, ça coûte de dire pardon. Je te demande pardon. Et pourtant, dans certains contextes, c'est une épreuve, mais incroyable. Je me souviens d'une jeune femme qui, un jour, une réunion de, c'est une petite réunion de maison, mais vraiment, je sais pas, moins de 10 personnes. Pas grand chose. Cette jeune femme, elle avait quitté son pays où elle était en danger. Elle était partie sans sa petite fille. Et elle était partie, demandeur d'asile. Elle a fait tous ses papiers, tout était bien. Ça faisait un petit moment qu'elle était en France, bon, au moins une année. Elle a fait des formations, elle était insérée. C'était une fille intelligente qui voulait travailler, etc. Et je l'avais pas vue depuis quelques temps. Et elle vient à cette réunion. Et à la fin de la réunion, elle est bouleversée. Elle ne s'arrête pas de pleurer, mais elle est incapable de nous dire pourquoi. Elle est tellement bouleversée que la réunion se finit. Et elle m'appelle le lendemain ou le surlendemain. Et elle me dit, Laurent, je vais te dire, voilà, j'étais extrêmement découragé avant de venir à la réunion. Et a priori, j'avais parlé sur le pardon, je ne m'en souviens pas. Et elle me dit, voilà, je vais te dire quelque chose. Ça fait des semaines, je suis désespéré parce que je fais toutes les démarches. Ma petite fille ne peut pas venir, on n'arrive pas à faire venir ma petite fille en France. Ça fait des mois et des mois, j'ai fait une formation, je suis capable de travailler, je veux travailler, je n'ai aucun travail. Je suis désespéré. Et pourtant, j'aime le Seigneur de tout mon cœur. Et c'était réel. Elle aimait Dieu de tout son cœur. Et elle me dit, mais il y a quelque chose qui s'est réveillé en moi quand il y a eu cette réunion. Et elle était sincère. Elle aimait Dieu de tout son cœur. Mais elle s'était promis, même juré, excusez-moi, c'était le terme, elle s'était juré de ne jamais pardonner à une tante qui avait fait se séparer son père et sa mère. Elle avait été active dans le divorce de ses parents. Elle dit, Seigneur, tu peux me donner tout ce que tu veux, et depuis sa conversion, mais jamais, jamais, je ne pardonnerai à cette personne. Et là, elle est bouleversée, elle me dit, mais je sais, là, je le sais depuis toujours, mais là, depuis la réunion, il faut que je le fasse. Et je lui dis, il me dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je lui dis, mais il faut que tu te donnes pardon. C'est tellement simple. Et je dis, tu connais cette tante, tu as son numéro? Non, je ne l'ai pensé pas parler depuis 10 ans peut-être, mais tu peux trouver son numéro? Oui, tu trouves son numéro. Et moi, le seul conseil que je te donne, tu prends son numéro, tu l'appelles et tu lui dis de suite ce pourquoi tu l'appelles. Tu fais ce que le Seigneur te demande. Tu l'appelles et tu dis, je t'appelle pour te demander pardon. On ne se parle pas de la pluie du beau temps, on ne s'est pas vu depuis 10 ans, etc. Elle appelle, elle me dit, je vais le faire. Et donc, elle me rappelle quelques jours après, mais c'est très vite, hein, 2 jours. Et là, au téléphone, bon, il faut attendre peut-être, je sais pas, 2-3 minutes avant qu'elle arrive à me parler parce qu'elle fait que pleurer. Elle fait que pleurer, elle est dans des sanglots, tellement qu'elle est heureuse. Et en fait, elle me dit, j'appelle cette tante, et j'ai fait comme toi parce que je lui ai dit, moi, c'est une expression que je prends d'un film, peut-être que vous connaissez le film, mais je ne citerai pas le film, c'est, il suffit dans la vie des fois de quelques secondes de courage, pour faire quelque chose. Et je lui dis, il te suffit de quelques secondes de courage, en fait. Et le Seigneur est capable de nous donner à tous quelques secondes de courage pour faire quelque chose comme cette femme. Elle a eu le courage de faire ce petit pain. C'était pas grand-chose. Et ça a déclenché le miracle de Dieu. Et elle me dit, j'ai fait comme tu m'as dit, j'ai téléphoné, je lui ai dit, je te demande pardon. Et elle me dit, on a pleuré, je sais pas combien de temps au téléphone, toutes les deux, on s'est réconciliés, c'était merveilleux, etc. Merci vraiment. Et elle me dit, et voilà, j'ai fait ça, c'était incroyable. Et le lendemain matin, je reçois un courrier de Nantes, vous savez, l'immigration c'est à Nantes, où on me dit, votre petite fille, c'est bon, elle arrive, c'est possible. Dans la même matinée, elle me dit, j'ai un appel, elle avait fait un stage de formation à la poste, elle me dit, est-ce que vous avez un travail? On a été content de votre stage, si vous n'avez pas de travail, on vous embauche. Tout ça, je vous dis, c'était entrelacé de sanglots tellement qu'elle était émerveillée de ce que Dieu avait fait. Une petite chose avait déclenché un grand miracle qu'elle attendait. Comme pour cette veuve, on voit qu'elle fait ce petit gâteau, et quelque part, c'est quand je suis faible, quand je me sens démuni de toute force, que Dieu peut intervenir de façon miraculeuse. Bien sûr, il va intervenir quand même, si on résiste, si on fait notre plan bien, mais on passe à côté de choses merveilleuses. Merveilleuses. Et cette foi, la foi de cette femme, elle a été affirmée de façon vraiment puissante, puisque vous avez vu qu'après même, elle va expérimenter que son fils mort va revenir à la vie. Et même s'il y a encore là des pourquoi, il y a beaucoup de pourquoi. Et je vous dis encore les pourquoi, Dieu n'est pas contre les pourquoi. Dieu n'est pas contre vos pourquoi. Moi, je demande souvent au Seigneur, mais pourquoi ? Parfois, il me répond, parfois, il ne me répond pas. Il faut avoir cette sagesse de dire, Seigneur, tu es souverain, et si tu me réponds pas, c'est que j'en ai pas besoin. Ou en tout cas, c'est pas pour de suite. Parce que Dieu non plus ne nous cache pas des choses. Il n'est pas un homme pour jouer avec nous, pour vouloir... Vous voyez ce que je veux dire ? Non, s'il fait ces choses-là, c'est qu'il nous préserve. Son but, c'est qu'on soit avec lui pour l'éternité. Chacun d'entre nous. Et parfois, les chemins sont compliqués, sont difficiles à comprendre. Mais pour finir, j'aimerais juste nous rappeler, ça a été très bien fait aussi dans la scène ce matin à travers les chants, il y a cet épisode de ressuscitation, c'est incroyable. Se ressusciter là déjà là, Dieu de l'Ancien Testament nous montre « Je suis le Dieu de la vie ». Je suis pas un Dieu qui est dans la mort, qui est dans les choses tristes. Et ce matin, j'aimerais vous dire, et certes, il y a cette épreuve très difficile, mais Dieu est un Dieu de vie. Dieu veut qu'on porte du fruit. Dieu veut qu'on vive une vie pleine, une vie épanouie de chrétien. Et moi, ce que j'avais pas compris jeune, moi maintenant, je le prêche, je veux le prêcher. C'est que même s'il y a beaucoup d'épreuves, s'il y a beaucoup de souffrances et des questions sans réponse, Dieu est le Dieu de la vie. Jésus nous aime. D'un amour incroyable, insondable. On peut pas le contenir. On peut pas le contenir dans cette pièce, dans un cœur, dans quoi que ce soit. Et il nous offre tout ça gratuitement. C'est ça la grâce. Juste parce qu'il nous aime. Juste parce qu'il t'aime. Et puis, lui-même a été ressuscité pour nous montrer que la mort n'a pas d'effet. La mort n'a pas de pouvoir sur lui. Et parfois, peut-être, on peut se sentir mort à l'intérieur. Peut-être que quelqu'un se sent mort dedans. Et en apparence, on peut faire ce qu'on veut, hein. On peut tous jouer un rôle, finalement. Hein. Vous le savez, même ici à l'église. Mais le Seigneur te dit, tu te sens mort, mais moi je suis capable de ressusciter ce qui est mort. Il est le Créateur. Il est le Créateur. Le Créateur, ça veut dire quoi ? Il n'a pas besoin de quelque chose pour créer. Il crée à partir de rien. C'est la différence qu'il y a entre nous, l'esprit créateur que Dieu nous a transmis, puisqu'on est ses enfants à son image. Nous, il nous faut toujours créer à partir de quelque chose. Lui peut créer à partir de rien. Et même s'il y a le vide dans ton cœur, même si tu te sens vide, tu te sens même mort, j'irai même plus loin, même si tu penses à la mort, Dieu est capable de remettre la vie là où il n'y a plus rien. Parce que c'est le Créateur. C'est lui qui donne comme il veut, quand il veut. Et ce qu'il veut, c'est sûr, c'est nous donner la vie. Et que la vie soit même en abondance dans nos vies. Et je suis sûr que la vie de cette veuve, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Ça a dû être quelqu'un qui a dû produire du fruit. Bénir les autres, j'en suis sûr. Parce qu'elle avait expérimenté l'amour de Dieu dans sa vie. Je vous laisse ce petit psaume qu'on puisse dire ensemble comme David. Mon âme espère en l'Éternel, tu es mon secours et mon bouclier. Qu'on puisse le dire ensemble ce matin, je vous le redis. Mon âme espère en l'Éternel, tu es mon secours et mon bouclier. Alors si quelqu'un est fatigué, découragé, ça arrive. Vous avez le droit d'être fatigué, découragé. Vous avez peut-être épuisé tous les recours qui sont en votre possession pour remonter la pente, pour dire je suis un Seigneur, je t'aime, je sais que tu vas intervenir. Allez, par la foi, je compte sur toi et on fait plein de choses, on est actif, mais on voit que ça ne marche pas parce qu'on fait avec nos propres forces. On compte sur nos propres forces. J'aimerais vous encourager ce matin, ne comptez pas sur vos propres forces pour faire quoi que ce soit. Dieu nous a donné des capacités, ça, c'est indéniable. Des talents, des choses comme ça, et mettez-les au service de Dieu de plus en plus. Mais dans tout ce que vous faites, réalisez que tout nous vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Ça, c'est le secret pour porter du fruit, en fait. C'est le secret pour être heureux et pour vraiment savoir que Dieu est avec nous. Et puis, ne vous inquiétez pas si vous avez épuisé toutes vos forces, c'est là que Dieu va intervenir. C'est quand je suis faible que je suis fort. On pourrait dire, celui qui a écrit ça, il comprend rien à la vie. C'est vrai. si on n'a pas expérimenté ce que Dieu fait. C'est quand t'es fort, quand t'es faible que tu es fort. Le monde dans lequel on est nous dit, il faut que tu sois fort. Il faut que tu marches sur les autres. Il faut que tu les écrases. Et parfois même, on a cette pensée, en tant que chrétien, Seigneur, il faut que je sois fort, il faut que tu me renouvelles dans mes forces, il faut que je sois costaud, que je tienne le coup, il faut que je soutienne un tel. Parfois, il faut qu'on lâche prise et dit, Seigneur, j'ai besoin que tu me renouvelles. J'ai besoin que tu me remplisses de ta vie. J'ai besoin que tu me remplisses de ton amour. Même si tu m'as tellement utilisé de foi, j'ai besoin que tu renouvelles cette vie en moi. J'ai besoin de vivre le miracle de ta vie renouvelée en moi. Et peut-être que aussi, comme cette femme, tu me demandes de faire une petite chose. J'ai quelque chose à faire par la foi pour que tu déclenches vraiment ce miracle. Pour finir, vous savez que le mot Sarepta veut dire le lieu du fondeur, l'endroit où on fondait, où on faisait fondre, probablement pour quand on travaillait les métaux, etc. Et des fois, Dieu voilà, nous fait passer au feu, comme on dit. Mais c'est pas le feu pour le feu, c'est pas le feu pour la souffrance, c'est pas le feu pour t'écraser. C'est pour vivre des choses merveilleuses. Et on est tous différents. On va pas être éprouvés dans les mêmes domaines. On va pas non plus être éprouvés avec d'une façon aussi intense. Et parfois, on ne va pas même du tout vivre ces choses de grande souffrance parce que on va avoir un cœur aussi qui sait mettre Dieu de suite à la première place. Vous savez, on peut dire des fois, des gens sont très éprouvés, d'autres pas beaucoup, mais ne croyez pas que celui qui a l'air peu éprouvé n'est jamais éprouvé ou n'a pas douté, mais peut-être qu'il a mis sa confiance en Dieu d'une façon prioritaire. Et ça, c'est important pour nous, de lui faire confiance. Remettez-lui votre situation ce matin, s'il y a quelque chose qui a besoin d'être remis entre ses mains. Faisons la petite chose qu'il nous demande, parce qu'il nous demande jamais des choses, vous savez, qui ne sont pas faisables. Ça nous paraît énorme à faire. Ça nous paraît énorme. On discutait hier avec les jeunes par rapport à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire pour nous? Et moi, accepter l'appel de Dieu pour être pasteur, pour moi, c'était très, 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 très dur. Certains vont dire, c'est merveilleux, Seigneur, merci pour l'appel que tu me donnes. Et quelque part, depuis leur conversion, il y avait là quelque chose sur leur cœur qui a été déposé, et c'était une évidence, et le jour où ça se fait, c'est un aboutissement, il n'y a pas de souffrance, il n'y a rien. Moi, c'était une souffrance d'accepter. Je vous l'assure. Mais ça, parce qu'on est chacun différent. Et vous allez dire, il est bizarre, ce pasteur, il n'est pas content de passer, mais je suis extrêmement content d'être devant vous ce matin parce que j'ai vécu le miracle de Dieu qui m'a demandé de faire ce qu'il me demandait. Et quand on fait ce qu'il nous demande, on vit le miracle. On est dans la joie. On est dans la paix. Et moi, pour moi, il était hors de question que je sois pasteur. C'était pas planifié. Moi, j'avais tout planifié. Vous savez, comme quand on achète une voiture pour 4 et 5, le troisième enfant arrive. Non, j'avais pas planifié la voiture. Non, moi, c'était pas planifié dans mon esprit. Excusez-moi, je suis bizarre. C'était pas planifié. Je voulais servir Dieu de tout mon cœur, ça. Mais Seigneur, ça, j'avais pas prévu. Des fois, ça ne m'avait jamais effleuré l'esprit d'être pasteur. Et donc, quand il m'a dit, je t'appelle, waouh. C'est comme quand il nous dit, je te demande de faire ça, je te demande de faire ce petit pain. Est-ce que c'est compliqué de répondre à l'appel de Dieu et de dire, je veux que tu sois pasteur, dis-moi oui. C'est pas compliqué. Vous allez me dire, mais non, c'est pas compliqué. Mais pour moi, c'était très compliqué. Et il a fallu qu'il tape fort sur la tête, très très fort, à plusieurs reprises, comme des fois, pour cette femme, il faut que la foudre tombe plusieurs fois au même endroit, mais il a fallu qu'il tape plusieurs fois sur ma tête très dur pour que je comprenne, et que j'accepte simplement de dire, oui, je te fais confiance. Et là, quand on lui fait confiance et qu'on lui remet vraiment, on va dire, les clés du camion, comme on dit, il n'y a plus de problème. On est apaisé. Et on voit aussi le miracle de Dieu. Parce que c'est ça aussi, c'est pas juste un apaisement. Cette femme, elle a vu de suite. Moi, je vous encourage à faire ça parce que vous allez voir de suite la main de Dieu, son amour sur vous, sa paix aussi. Et c'est ce qu'il veut que tous on expérimente. C'est sa promesse pour chacun d'entre nous. On peut prier si vous voulez. Seigneur, je te remercie pour ta parole, Seigneur, qui est un concentré de ton amour. Et d'ailleurs, chacun de ces versets, Seigneur, tu nous dis, Jésus t'aime. Derrière chacun de ces versets, Seigneur, tu veux renforcer cette relation que tu as avec nous. Derrière chacun de ces versets, derrière toute cette parole, tu veux nous dire encore aujourd'hui, fais-moi confiance. Je t'aime et je vais m'occuper de tout. Je vais m'occuper de ta vie dans les moindres détails. Même si tu ne comprends pas. Et Seigneur, nous sommes tellement émerveillés de ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Je te bénis pour chacun d'entre nous ce matin et tu bénis celui, celle, Seigneur, qui avait besoin, Seigneur, de te remettre, Seigneur, complètement une situation. Qu'elle puisse le faire, Seigneur, dans la paix, avec foi, certes, ça va nous demander un effort à chacun, mais je te prie qu'on puisse chacun le faire, Seigneur, afin que tu t'occupes, Seigneur, de nous. Seigneur, si nous nous occupons de tes affaires, tu t'occupes de nos affaires, Seigneur. Et nous voulons avant tout te mettre à la première place, dans nos choix. Aide-nous, donne-nous de la force. Je sais que tu le fais par le Saint-Esprit. Tu nous donnes la force d'obéir, d'accepter les circonstances. Et je te prie pour peut-être des personnes qui ont eu du mal jusqu'à aujourd'hui à accepter les circonstances. Je te prie pour celui qui a du mal à accepter la famille dans laquelle il est né, Seigneur. Je te prie pour celui ou celle qui a du mal à accepter la situation financière qui est la sienne aujourd'hui. Pour celui qui a du mal à accepter, Seigneur, la maladie qui est sur sa vie. Je te prie pour bénir, apaiser les cœurs, comme tu sais le faire. Tu nous donnes, Seigneur, simplement de te remettre ces situations. Tu bénis l'église de Sainte-Anne, Seigneur. Tu bénis l'église de Sainte-Anne et chacun de ses membres, Seigneur. Tu bénis chacun et tu fais la reposer ta paix. Tu fais la reposer ton amour. Seigneur Jésus, nous sommes émerveillés devant tant de grâces de ta part. Tout cela n'est que cadeau pour chacun d'entre nous. Et je sais, Seigneur, qu'il y aura encore des pourquoi à la sortie de cette réunion. Mais Seigneur, nous voulons sortir de ce lieu avec la paix dans le cœur. L'assurance, Seigneur, que tu t'occupes de tout. Et que tu vas nous amener à bon terme, que tu es un guide parfait pour nos vies. Seigneur, donne-nous, renouvelle-nous en nous cette foi. Et que par cette expérience, tu puisses nous donner, Seigneur, de vivre des choses encore plus belles, encore plus grandes, à l'échelle de nos vies, de nos familles, de nos couples, mais aussi de ton Église, Seigneur. Merci par avance pour tes promesses qui sont merveilleuses, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.